tout à coup un éclat de rire immense, formidable, et qui semblait devoir tout fracasser, fit explosion. Le caricaturiste, qui ne sommeille jamais longtemps chez cet excellent gagougnol, venait d'être atteint en pleine poitrine par le ridicule tout-puissant que dégage, 24 heures par jour, la personnalité de Delumière. Il se laissa tomber sur un divan et se tordit dans les convulsions et les pâmoisons de l'allégresse la plus délirante. Quand l'accès eut pris fin, le grotesque, un moment cloué par la surprise, était parti, dédaigneux et blême. « Ah, l'animal !» exhala enfin le rieur, après un bruyant soupir de satisfaction. Et se parlant à lui-même, suivant sa coutume, « il me fera mourir un de ces jours. J'ai beau le soupçonner des plus sales manigances, c'est à peine si j'ai le courage de le flanquer à la porte. Vraiment, c'est à payer sa place. Le vilain bougre m'a-t-il fait rire avec ses bottes à la Franconie et sa gueule de marlou circassien, vue dans le pénombre? Le père que j'ai connu, pion à Toulouse, n'était pourtant pas si drôle. Il passait pour un honnête marchand de soupe légèrement toqué de prophéties royalistes et assez mal vu du clergé qu'il prétendait éclairer. Mais cela ne dépassait pas la mesure d'un bon ridicule de province. Il faut croire que son fils tient plutôt de l'aïeule gargotière, la mère des compagnons, comme on disait, laquelle ne paraissait pas descendue précisément des Elohim, ainsi qu'il nomme ses ancêtres d'avant le déluge. Enfin, ne pensons plus à ce polisson qui m'a fait perdre encore une heure ce matin, et voyons un peu ce modèle. Dites donc, mademoiselle, vous seriez bien aimable de presser un peu le déshabillage. » À ce moment, quelque chose passa, qui n'était ni un bruit, ni un souffle, ni une lueur, ni rien de ce qui peut ressembler à un phénomène quelconque. Peut-être même ne passa-t-il absolument rien. Mais Gacougnol eut un frisson et, vivement impressionné, sans savoir pourquoi, demeura une minute silencieux, la bouche entrouverte, les yeux fixés sur le paravent. « Eh bien, qu'est-ce que j'ai donc ? » murmura-t-il. « Est-ce que cet idiot serait contagieux par hasard ?» Il s'approcha et, prêtant l'oreille, perçut comme un faible râle, très étouffé, très lointain, semblable à celui de ces apocryphes défunts que le poète des épouvantes entendait agoniser sous la terre. Écartant brusquement le léger meuble, il vit alors la malheureuse, agenouillée, les épaules nues et le visage enfoui dans un misérable fichu de laine bleue, la seule pièce de son vêtement qu'elle eût enlevée. Évidemment, le cœur lui avait manqué tout de suite. Elle s'était affaissée de désespoir. Et, depuis un quart d'heure environ, elle étouffait, de ses deux mains, d'horribles sanglots qui la secouaient tout entière. Gacougnol, surpris et apitoyé, fut aussitôt saisi de cette pensée que son rire de tout à l'heure avait été l'accompagnement de ses larmes extraordinaires, et se penchant avec émotion sur la douloureuse, « Mon enfant, dit-il, pourquoi pleurez-vous ? » Ces simples mots eurent l'effet d'une percussion magnétique. D'un mouvement animal rapide, Clotilde releva la tête et regarda follement cet homme qui venait de lui faire entendre la même question qu'en un pareil déconfort lui avait autrefois adressé le missionnaire. Dans le trouble de son étonnement, elle avait cru reconnaître la voix même de ce cher vieillard qui représentait pour elle l'unique rafraîchissement terrestre qui lui eût été accordé. Du même coup, elle se sentit transportée d'espoir et son visage exprima ce sentiment. Tout son beau visage ruisselant de pleurs que le peintre admirait silencieusement. L'ayant à peine regardée, lorsqu'elle était survenue au milieu d'une oiseuse discussion qui l'exaspérait, il la trouvait maintenant très touchante et presque sublime dans le décor de son affliction. L'indifférence eût été d'ailleurs assez difficile. Il sortait de cette physionomie comme une main de douceur qui tirait l'âme de ses enveloppes et la colloquait dans une prison de cristal. Ce n'était pas la traditionnelle pécheresse de l'Évangile, dont le sacrilège paganisme de la Renaissance a tant abusé. Ce n'était pas non plus, cependant, la sœur de ces frêles bienheureuses qui se consument, depuis 2000 ans, dans l'interminable procession des saints, comme les flambeaux intangibles d'une chandeleur éternelle. Il n'y avait pas, en cette fille prosternée, beaucoup plus qu'une pauvre petite chair amoureuse, pétrie par les séraphins de la misère, et parée seulement des plus pâles myosotis de la douleur. Holocauste résigné de la vie banale que n'éclairait aucun nimbe et que n'avait pas transpercé la foudre des tourments divins. Mais la magnificence paradoxale de sa chevelure en désordre, le sombre velours de ses adorables yeux d'antilope où naufrageait la lumière, et ce visage de chrétienne dévorée que la chaude pluie des larmes semblait avoir essuyé de sa pâleur, tout cela donnait l'impression du rêve. Gacougnol en était d'autant plus frappé que, depuis quelque temps, il se taraudait l'encéphale pour arriver à construire une sainte Philomène menacée par plusieurs lions, qu'il comptait offrir à un bonhomme d'archiprêtre toulousain qui lui avait fait avoir des commandes. Toutefois, en cet instant, l'admiration sans calcul et la piété seule agissaient immédiatement sur lui. Voyant Clotilde suffoquée, incapable de répondre, il lui tendit les deux mains pour l'aider à se relever, et lui parlant avec une sorte de tendresse. « Couvrez vos épaules, dit-il, ma petite amie, et venez vous asseoir près du feu. Nous allons causer bien tranquillement comme de vieux camarades. Ne me parlez pas encore, épongez seulement vos yeux une bonne fois, je vous prie. J'ai beau être une espèce de brute, je ne peux pas voir pleurer. C'est plus fort que moi. Voyons, ça vous fait peur de poser pour l'ensemble, n'est-ce pas? Je comprends, et si je vous avais mieux regardé quand vous êtes venu, je vous aurais parlé autrement. Il ne faut pas m'en vouloir, c'est le métier qui veut ça. Si vous saviez les traînées qui viennent ici pour poser et pour tout ce qu'on veut. Ah, elles ne pleurent pas, celles-là, pour ôter leur chemise, je vous en réponds, et ce n'est pas toujours très beau ni très ragoûtant. Sans compter qu'on est embêté d'une autre manière. Vous m'avez vu tout à l'heure avec un fier imbécile. Que voulez-vous? On finit par prendre des habitudes de cheval à force de cultiver tous ces chameaux, et quelquefois on tombe assez mal. Enfin, vous n'êtes plus fâchée, dites. Ah, certes, non, elle n'était plus fâchée, la pauvre fille, si elle avait pu l'être. Elle sentait si bien la pitié de ce brave homme qui s'accusait lui-même pour la rassurer. Mais il ne lui laissa pas le temps d'exprimer sa reconnaissance. Et puis, s'il faut tout vous dire, vous étiez assez mal recommandée par l'individu qui est venu hier. Ce n'est pas votre père, n'est-ce pas ? « Mon père » cria-t-elle en bondissant. « Lui, le misérable, est-ce qu'il a osé vous dire ?»« Non, calmez-vous, il ne me l'a pas dit. Mais il ne m'a pas dit non plus le contraire. »« Oui, j'y suis. »« C'est le consolateur de madame votre mère. »« Ah, ma pauvre enfant, il était très saoul, le monsieur. »« Et sans la lettre de votre propriétaire, qui est mon vieil ami, je ne l'aurais certes pas reçu. » Le drôle parlait de vous comme d'une marchandise. J'ai même cru démêler d'obscures intentions qui ne m'ont pas paru fleurer la plus fine bergamote. Il a fini par essayer de me soutirer de l'argent, et je m'admire de ne l'avoir pas jeté plus rudement à la porte. Vous comprendrez, ma chère petite, que ce préambule me disposait mal à vous octroyer de superlatives révérences. Mais n'en parlons plus. Voici ce que je vous propose. Voulez-vous poser pour la tête seulement? Vous avez une figure de sainte que je cherche depuis des mois. Je vous offre 3 francs par heure. Ça vous va-t-il? Remarquez bien que c'est un service que je vous demande. Clotilde croyait sortir des cavernes de l'âge de pierre. Sans l'honnête et bonasse physionomie de cet étonnant Gacougnol, qu'on prendrait quelquefois pour le marguillier de Notre-Dame des Paternités, elle n'aurait pu s'empêcher de craindre une minute quelque hideuse mystification. « Monsieur, dit-elle enfin, je suis une très pauvre fille et je ne sais pas m'exprimer convenablement. Si vous pouviez voir dans mon cœur, si vous connaissiez ma vie surtout, vous comprendriez ce que j'éprouve. J'avais si grand peur de vous. Je suis venu comme les damnés vont dans l'enfer. Pardonnez-moi de vous avoir ennuyé de mon pleurnichage. Et si vous pouvez vous contenter de ma figure triste, je suis bien, bien heureuse. Pensez donc, jamais on ne m'adresse une parole de bonté. » Et tout de suite, sans que Gacougnol pût le prévoir ni l'empêcher, elle lui prit la main et la baisa. Ce mouvement fut si vrai, si gracieux, si touchant, que le digne Pélopidas, complètement désorienté, craignit à son tour de laisser voir un attendrissement peu compatible avec la sérénité d'un dominateur de lui-même, et brusquement retira sa lourde patte. « Allons, allons, c'est bien. Pas de sentiments, s'il vous plaît, mademoiselle, et au travail. Venez par ici, en pleine lumière, que j'étudie votre pose. Levez les yeux et fixez avec attention cette solive qui est là, au-dessus de votre tête. Oui, ce n'est pas mal, c'est même très bien. Mais quel poncif, mes enfants, quelle bondieuserie déchaînée. Il y a peut-être 500 000 paires d'yeux comme ça en peinture qui contemplent le séjour des élus. Que diable pourrais-je bien lui faire regarder à Sainte Philomène? Le truc des visions célestes est insoutenable. C'est tout de même dur à peindre un sujet pareil quand on n'a jamais été le spectateur d'aucun martyr. Lui ferais-je regarder la multitude en ayant l'air de demander grâce? Stupide. D'ailleurs, il n'y a pas moyen, puisqu'on veut que tous les chrétiens livrés aux bêtes aient ardemment désiré de leur servir de pâture. Il est vrai qu'en la supposant incapable de crainte, j'aurais encore la ressource de lui faire exhorter le populo. Ce n'est pas non plus très inédit, sans compter que les personnages qui font des discours dans les tableaux ne sont pas précisément irrésistibles. Alors quoi? Pas moyen d'échapper aux yeux vers le ciel. Évidemment, c'est encore ce qu'il y a de plus propre à considérer. Et puis après? Elle est debout, c'est entendu. On ne leur apportait pas de fauteuil. Sans doute, mais qu'est-ce que je vais faire des bras? Des deux bras? Oh, juste juge! Impossible de les couper. On me demanderait si c'est le martyr de la Vénus de Milo. Liés, croisés, étendus en croix, levés au ciel? Toujours le ciel. Ah, zut! Dites-moi, mon enfant, quel est donc votre nom déjà? Clotilde, monsieur. Eh bien, mademoiselle Clotilde, ou Clotilde tout court, si vous le permettez, vous allez peut-être me donner une idée. J'ai à peindre une petite martyre qui va être mangée par les lions. Mettez-vous à sa place. Que feriez-vous si vous étiez exactement à sa place? Faites bien attention qu'il s'agit d'une vraie sainte, qui est déjà aussi dévorée que possible par le désir d'entrer dans le paradis, avec une belle palme et qui n'a pas peur du tout de ses animaux. Encore une fois, que feriez-vous en attendant le premier coup de griffe? Clotilde put à peine s'empêcher de sourire en songeant à sa mère, dont le célèbre martyr avait saturé son enfance. À son propre insu, l'horreur perpétuelle de ce praticable d'hypocrisie, déployée au fond de toutes les scènes de sa vie, avait mis en elle une convoitise extrême, un besoin famélique de simplicité et de vérité. Sa naïve réponse ne se fit donc pas attendre. « Ma foi, monsieur Gacougnol, je n'ai jamais pensé à rien de semblable. Même quand j'étais meilleur que je ne suis aujourd'hui, je n'ai jamais cru que Dieu pourrait m'appeler à lui rendre gloire de cette manière. Cependant, la chose que vous me demandez me paraît bien simple. Si j'étais une sainte, comme vous dites, une de ces filles généreuses qui ont aimé leur sauveur plus que tout au monde, et qu'il me fallut mourir sous les dents des bêtes, je crois malgré tout que j'aurais très peur. Seulement, étant sûre d'entrer aussitôt après dans la gloire de mon bien-aimé, je penserais que ce n'est pas bien difficile ni bien long de me donner la mort, et je prierai les lions, au nom de Jésus, de ne pas me faire trop longtemps souffrir. Je suppose que ces animaux féroces me comprendraient, car je leur parlerai avec une grande foi. Ne le croyez-vous pas? » La joie de Pélopidas fut extrême et se manifesta spontanément par des cris et des gambades. Ma petite Clotilde, bleuglait-il, vous êtes simplement ravissante et je vous adore. Moi, je suis un idiot. Vous m'entendez bien ? Un triple idiot. Jamais je n'aurais trouvé ça. Grâce à vous, je vais pouvoir faire quelque chose de propre. Voyez-vous, mon petit corbeau noir, nous sommes si crétins dans l'huile que nous n'arrivons jamais à nous mettre au vrai point de vue. Nous ne savons pas être simples comme il faudrait, parce que nous voulons être spirituels et faire entrer nos idées de dessous dans la tirelire du bon Dieu, et porter nos têtes de cochon comme des saints sacrements de bêtises à 40 pas devant nous, dans les processions des imbéciles. Je dis ça pour les plus malins autant que pour moi-même. Votre idée me transporte, et, tenez, je m'en vais la fixer tout de suite. » À ces mots, il se précipita sur un carton, s'empara fougueusement d'une vaste feuille de papier qu'il boucla sur un châssis, et se mit à dessiner à grands traits, sans interrompre le monologue. « Vous allez voir. Restez là, ma bonne fille, je n'ai pas besoin de la pause. » Je vais tâcher d'abord de bâtir un peu mon affaire. Nous allons leur parler à ces lions, ne craignez rien. Naturellement, nous sommes en plein cirque romain. De ce côté-ci, la canaille, dans le lointain. On la verra si peu que ce n'est pas la peine d'en parler. Ici, vous, c'est-à-dire Philomène, avec le bon Dieu qu'on ne voit pas, mais dont il faudra sentir la présence, si je ne suis pas une bourrique. Au fait, combien nous faut-il de lions ? Si j'en mettais 40, une académie de lions. Non, décidément, ce serait trop spirituel. Contentons-nous de 4. Ça fera penser aux vertus cardinales, justice, prudence, tempérance et force. Entre parenthèses, je vous conseillerais de vous adresser particulièrement à la dernière. Entre parenthèses, je vous conseillerais de vous adresser particulièrement à la dernière, quand vous leur ferez votre petit discours. Je me défierai des autres. À propos de discours, il y a bien toujours l'inconvénient de faire parler une figure peinte, avec cette diablesse de bouche ouverte pour le silence éternel, ce qui fera le désespoir des nobles cœurs jusqu'à la consommation des siècles. Tant pis, je vous fermerai la bouche. On supposera naturellement que la conversation est finie. Et d'ailleurs, les lions n'exigent pas qu'on leur parle comme à des hommes. C'est surtout avec leurs yeux qu'ils écoutent, ce dont la brute humaine est presque toujours incapable. Nous en savons quelque chose. Bien, nous les voulons énormes, n'est-ce pas ? Les lions de Daniel, par Victor Hugo. Non, vous ne connaissez pas ? Des lions qui causent entre eux, mon enfant. Il y en a même un qui parle comme un âne. N'importe, ils ont de l'allure. Tenez, voyez-vous celui-là ? Il a l'air assez bon garçon. Si vous lui passiez la main sur la crinière, ça le flatterait peut-être. Essayons. Tiens, tiens, ce petit geste étonne sans doute nos vestales. Au fond, je m'en fiche de ces prêtresses. Oui, mais les dames du vernissage, ces vestales de mes petits boyaux, si elles allaient trouver ça gentil maintenant. Ah, diable, non, par exemple, nous tomberions dans la crucherie sentimentale. Cherchons autre chose. Soudainement, il se dressa, les cheveux épars, en secouant tout l'Olympe de ses pensées. « Mais, sacrebleu ! » s'écria-t-il, « je n'ai jamais fait de lion, moi. Je ne les ai pas du tout dans l'œil, ces fauves. Regardez-moi celui-là qui nous tourne le dos au premier plan. On le prendrait pour une vache, les yeux fermés. Il faudra que j'aille les étudier au jardin des plantes. Une idée, si j'y allais avec vous, aujourd'hui même. » J'aime les choses qui se font tout de suite. Il est à peine midi. C'est bien décidé, n'est-ce pas ? Vous m'accompagnez. Alors partons. 5 minutes plus tard, on était dans la rue, et Gacougnol hélait un fiacre. « Au bon bazar ! » cria-t-il, et vivement. Puis, ayant fait monter Clotilde, il se laissa tomber à côté d'elle et continua de parler avec abondance pendant que roulait la voiture. « Avant tout, ma chère enfant, vous allez me promettre de me laisser faire tranquillement ce qui me plaira. Je suis un animal qu'il ne faut pas contrarier. Vous êtes venu chez moi pour vous mettre à mes ordres, je suppose. Par conséquent, vous devez m'obéir bien gentiment. Vous comprenez que je ne peux pas vous emmener dans ce costume. Nous allons donc passer par cette halle qui est sur notre chemin, et vous ferez un peu de toilette. Oh, soyez tranquille, ce n'est pas un cadeau. Je n'ai pas le droit de vous en faire. C'est tout simplement un petit acompte sur nos séances. D'abord, vous savez, moi, je n'aime pas les pauvres. Je ne peux pas les sentir. J'ai l'inspiration trop décorative et je ne pourrais rien faire avec un modèle de tête qui ne serait pas vêtu convenablement. Puis, nous déjeunerons quelque part. Je crève de faim, et vous aussi peut-être. Nous tâcherons de ne pas nous embêter. Ah, par exemple, vous seriez aimable de ne pas vous habiller pendant 2 heures. Je suis sortie pour voir des animaux distingués et je voudrais bien ne pas arriver trop tard. J'ai besoin d'une masse de croquis. Clotilde eût été fort embarrassée s'il avait fallu répondre. Gacougnol débobinait sa palabre la plus active et se parlait surtout à lui-même. La malheureuse était, d'ailleurs, peu capable de former une idée quelconque. Elle se croyait en plein rêve et n'avait pas trouvé un seul mot depuis que ce diable d'homme s'emparait en claironnant comme un chef barbare de sa flexible volonté. Naïvement, elle obéissait, suivant l'instinct des êtres profonds. Son âme supérieure lui disait d'accueillir cette aubaine incroyable avec la même douceur qu'elle eût accepté les avanies. Semblable à tous les souffrants qui croient surprendre un sourire à la bouche de bronze de leur destin, elle s'abandonnait délicieusement à l'illusion d'avoir obtenu sa grâce. Et puis, cette pensée qu'elle allait enfin être habillée la suffoquait, l'étranglait, lui serrait le cœur. Sortir une bonne fois de ces affreuses guenilles que les mendiantes auraient méprisées, ne plus sentir sur elle cette robe infâme qui la salissait, qui la flétrissait, dont le voisinage aurait fait mourir les fleurs, robe de tristesse et d'ignominie que son misérable amant lui avait donnée autrefois et qu'elle portait uniquement parce qu'il n'avait jamais été possible de la remplacer. Oh, cette robe d'un rouge vomi de mastroquet en déconfiture, délavée par les pluies de 20 saisons, mangée par tous les soleils, calcinée par toutes les fanges, effilochée jusqu'à l'extinction du tissu et ravaudée, semblait-il, par la couturière des balafres ou des autopsies. En être débarrassée, délivrée, ne plus la voir, la jeter en fuyant dans quelque ruisseau où les ramasseurs d'ordures la dédaigneraient. Était-ce possible qu'il y eût des hommes si généreux? Certes, oui, qu'elle allait poser de bon cœur tant qu'on voudrait, et ce ne serait pas sa faute, à elle, si cet artiste ne faisait pas un chef-d'œuvre, car elle poserait comme personne assurément n'avait jamais pu poser. Elle serait de pierre sous son regard. Oui, sans doute, mais les bottines, il lui en faudrait aussi, car elles en étaient à marcher dans des chaussons. Et du linge, donc, comment s'en passer, puisqu'elle était complètement nue sous ses loques, et un corset, et un châle, et un chapeau. Tout cela est nécessaire à une femme pour être vêtue convenablement, comme il avait dit. Quelle dépense! Mais il avait de l'argent, pour sûr, beaucoup d'argent, et il ne voudrait pas faire les choses à moitié. Mon Dieu, dire pourtant que je serais comme cela tout à l'heure, pensait-elle en regardant les petites bourgeoises qui trottaient dans la rue du Bac. « Je crois que je vais devenir folle. » Il lui semblait que, pour rien au monde, elle n'aurait consenti à parler, de peur de laisser échapper quelque chose de sa joie. Gacougnol, désespérant d'obtenir l'attention de sa compagne, avait cessé de monologuer à haute voix. La main dans sa barbe copieuse, il la considérait en souriant. « Pauvre créature, se disait-il, je suis Dieu pour elle en ce moment, Dieu le Père. Si le bonheur avait des propriétés lumineuses, notre sapin serait le char du prophète Élie, car elle transsude la jubilation. Faut-il qu'elle en ait eu de la misère, celle-là, pour qu'il soit si facile de le procurer l'extase? Je savais bien, moi, que j'allais faire sortir la femme de ma petite sainte de tantôt. Ce miracle-là va me coûter dans les 5 ou 6 louis, tout au plus. Il les vaut, ma foi. C'est drôle tout de même la puissance de l'argent. Cependant, mon vieux, ne t'emballe pas trop sur cette idée. Évidemment, ma pauvresse n'est pas la première venue. C'est une chrysalide joyeuse de se transformer. Où donc est le mal? Elle obéit à sa nature. Et bien après, pourquoi sa figure mentirait-elle? Jamais une farceuse, même en espérance, ne pourrait se réjouir avec un pareil abandon. Elle ne me manquerait pas de me faire sentir que ça lui est dû et m'offrirait pour me gratifier de mon zèle une très belle gueule en mastic où sa dignité serait empreinte. L'enfantillage de cette grande fille me ravit au contraire, et c'est bien possible, après tout, qu'elle ait un cœur adorable. Plus une femme est sainte, me disait une fois Marche Noire, et plus elle est femme. Il doit avoir raison, comme toujours. Celle-là n'est peut-être pas tout à fait une sainte, et certainement elle n'est pas neuve. Elle se sera fait prendre et lâcher salement par quelque capétien de la pommade, ou quelque fugace trouvère du petit négoce. Éternelle histoire de ces lamentables toquets. Mais il se peut que le colimaçon ait glissé sur elle sans laisser la nacre malpropre de son souvenir. D'ailleurs, je m'amuserai à la faire parler en déjeunant, et je verrai bien la couleur de ses pensées. Comme il en était là de ses propres réflexions, la voiture s'arrêta devant la porte monumentale du temple de notre vraie foi.